remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Onde Femme Radio Zone 93.8 en direct tous les mercredis de 17h à 23h. Aujourd'hui, émission particulière aussi bien pour Remue Ménage de 17h à 18h30 que pour Radio Pleine Lune de 18h30 à 20h. Nous sommes en vacances, c'est donc des rediffusions que vous entendrez. Et aujourd'hui, je vous propose d'entendre une interview réalisée avec Marie-Noëlle Anderson. Marie-Noëlle Anderson qui est une écrivaine qui a écrit un livre avec pour titre Couleurs d'exil au pluriel, qui est une série de portraits d'exilés sud-africains. Alors, bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour.
Et tout de suite, eh bien, nous nous proposons de vous mettre dans l'atmosphère de l'Afrique du Sud. Nous en sommes très loin pour de multiples raisons, mais je crois que la musique peut nous aider à nous plonger dans cette atmosphère. Et Marie-Noëlle a choisi pour nous toutes sortes de musiques diverses qui nous feront découvrir ce qu'est peut-être la musique sud-africaine aujourd'hui pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas. Mais tout de suite, quelque chose d'une chanson qui fait vibrer le cœur de tous les Sud-Africains. Et qui s'appelle Marie-Noëlle dans la langue du pays.
Oui, c'est l'hymne national, en fait, de demain. C'est Nkosi Sikelele Africa, qui signifie « Que Dieu bénisse l'Afrique ».
Thank you.
Alors, Marianne et Noël Anderson, ça c'est un chant que vous avez enregistré, que vous avez entendu plusieurs fois déjà.
Je l'ai entendu plusieurs fois. C'est un chant qu'on chantait toujours aussi dans les funérailles, dans les townships. Et c'est un chant que j'ai eu mais le grand honneur de chanter en compagnie de Nelson Mandela après sa sortie de prison. Je veux dire que c'était un moment d'une très grande émotion. Et c'est un chant, bon, à l'origine un chant d'église, mais qui a été repris. Donc c'est vraiment un chant de ralliement très très fort pour tous les Sud-Africains en lutte.
Alors, Marie-Noëlle Anderson, il faut peut-être d'abord expliquer à nos auditrices et nos auditeurs comment se fait-il que vous écriviez un livre qui concerne l'Afrique du Sud et pourquoi vous connaissez si bien l'Afrique du Sud. Alors, rappelons tout d'abord le titre du livre, Couleurs d'exil, couleurs au pluriel, édité aux éditions Canvas et éditions de l'Air, et qui est sorti très très récemment. Nous avons droit à une rencontre avec vous rapidement après la sortie du livre. Et Marie-Noëlle, alors ce qui fait peut-être l'envie de départ, on peut juste dire ça parce qu'on le découvre entre autres sur le quatrième de couverture, c'est que vous êtes née en Afrique du Sud.
Oui, c'est ça. Je suis née en Afrique du Sud. Bon, à l'époque, je ne suis pas restée très longtemps parce que ma mère est rentrée en Suisse. J'ai fait une grande partie de mes études en Suisse et j'y suis retournée une fois brièvement à l'âge de 17 ans et à 20 ans où j'y suis restée 3 ans. Mais après ce moment-là, je me suis dit qu'au fond, finalement, ça ne me regardait pas tellement. J'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, j'ai voyagé. Et il a fallu encore une fois 20 ans, parce que la vie vous amène toutes sortes de choses. Et je me suis rendu compte que finalement, ces racines, elles étaient bien là. Et que c'était absolument nécessaire que j'aille sur place, les rechercher et voir ce qui se passait. Au fond, ce que j'avais à faire là-dedans, ce que j'ai fait. Je suis retournée en Afrique du Sud, mon père y vit toujours. Et c'est après ce retour en Afrique du Sud où je me suis rendu compte qu'en fait, les choses étaient bien pires que quand j'y avais séjourné, travaillé et tout ça à l'âge de 20 ans, que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Mais quoi, donc descendre dans la rue, c'était pas ce qui était le plus satisfaisant, disons, ou le plus efficace pour moi. Et c'est à la lecture d'un livre de Brighton Breitenbach, une petite phrase où il y a eu le déclic et j'ai pensé que voilà, maintenant c'est ça que je dois faire, c'est aller interviewer des exilés pour qu'ils racontent leurs histoires, leur histoire de vie.
Marie-Noëlle, précisez-nous juste quand même une chose que vous venez de dire. À un moment donné, vous avez senti la force de l'appel de racines qui, même si elles se sont manifestées très tard, oui. Malgré tout, se sont manifestées. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire partager un petit peu cette découverte ? Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas d'origine sud-africaine, vos parents ne sont pas sud-africains.
Si, mon père est sud-africain. Bon, il est blanc sud-africain, mais né en Afrique du Sud. Donc, c'est mon grand-père, en fait, qui s'était exilé, qui avait émigré, qui était d'origine écossaise. Et mon père lui-même est né en Afrique du Sud. Et cet appel, cette force, c'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment tombé dessus et j'avais plus le choix. Quelque part, c'était dans les tripes. Et il fallait absolument que je fasse ça, que je passe par-dessus toutes sortes de timidité, de questions. Il fallait foncer, il n'y avait plus de choix possible.
Et ça peut être ce qui déclenche ce profond bouleversement en vous. Ça a pu être une phrase d'un écrivain qui vous a tout à coup...
C'était une phrase qui a eu, la fonction de catalyseur de quelque chose qui était là, prêt à être saisi, à monter à la conscience et qui s'est déclenché à ce moment-là.
C'est celle que vous citez dans votre introduction ?
Tout à fait.
Alors, oui. Je peux me permettre de la lire ?
Volontiers.
Je me suis retournée pour regarder le cap qui fumait au loin, Stellenbosch un peu plus à l'intérieur, Somerset West et le Strand qui suivaient l'océan. Je voyais tout pour la première fois, je voyais tout pour la dernière fois.
Il faut peut-être le mettre dans le contexte parce que Breitenbach dit ceci au moment où il sort de 7 ans de prison. Parce que lui-même vivait en exil à Paris, il était retourné dans le pays et il avait été arrêté, fait prisonnier et mis en prison. Et c'est au bout de ces 7 ans où il ne savait pas ce qui se passait, si on allait le libérer ou non, qu'en sortant, il s'est trouvé là devant cette montagne du Cap qui est tellement belle, c'est une merveille de la nature, avec ce coup au cœur en se disant « bon, je le vois ». Pour la première fois depuis 7 ans où j'étais enfermée, où je voyais que mes 4 murs de cellules, mais aussi pour la dernière fois parce qu'on le libérait à condition qu'il retourne à Paris dans son exil. Donc il a passé d'un exil à l'autre en quelque sorte.
Mais vous, vous n'aviez pas vécu l'exil, donc vous avez senti, à partir de cette rencontre avec Brighton Bar, l'envie de retourner pour voir comment le paysage, la force du pays allait vous imprégner.
C'est ça. Bon, j'avais vécu justement 3 ans en Afrique du Sud autour des 20 ans, donc j'avais pas mal voyagé dans le pays. Je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Mais sans que ce soit vraiment très conscient, disons, cette appartenance et ce rôle quelque part de faire quelque chose pour tous ces gens qui souffrent et qui doivent absolument pouvoir avoir une existence digne.
Quand vous disiez, quand j'avais 20 ans ou que les quelques années que j'ai passées à ce moment-là, je me suis dit, mais ça ne me concerne pas, une sorte de façon de rejeter ce qui se passait là-bas, c'est parce que des fois c'est trop lourd et puis on se dit,
Soyons clairs, je veux dire, à 20 ans, c'était plutôt, j'étais un peu esservelée, j'avais d'autres choses dans la tête, j'avais envie de voyager, en bonne sagittaire, et disons que je n'avais pas de conscience politique ancrée, si vous voulez, comme la vie ensuite nous mène à voir les choses différentes.
Et alors, à partir du moment où vous sentez qu'il faut absolument que vous vous retrouviez dans ces racines, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez d'abord entrepris tout un voyage, un retour en Afrique du Sud à
C'est
ce moment-là?
C'est ça, oui. J'ai été reprendre d'abord contact avec mon père, avec qui j'ai peu de choses en commun, il faut bien le dire. Mais enfin, un père, c'est quand même un père. Et la patrie, il y a tout ça. Il y a la Croix du Sud au-dessus, le sol rouge, justement, dans lequel je sentais quand même un ancrage profond. Et c'est en rentrant, c'était un assez bref séjour, finalement, c'est en rentrant que ça a commencé vraiment à me préoccuper, à me donner du fil à retordre des nuits blanches, jusqu'à ce que je trouve cette voie de comment est-ce que j'allais m'exprimer, exprimer ma solidarité et apporter une contribution.
Et alors, vous avez décidé de rencontrer ou d'écrire, je ne sais pas si c'était tout de suite aussi clair que ça, que vous alliez écrire un livre et donner la parole aux exilés sud-africains un peu partout en Europe et dans le monde.
Oui, si, c'était clair que ça devait devenir un livre. Donc, en fait, la rencontre avec ces exilés, ça s'est passé au gré du hasard. Si on peut dire que le hasard existe, j'y crois pas du tout. Mais en fait, une personne m'a amené à une autre personne, les adresses, il y a une espèce de réseau de solidarité qui s'est fait. On m'a dit, tiens, tu pourrais aller regarder telle personne, contacte telle autre personne. Il y a des tas de gens qui ont refusé aussi, qui n'avaient pas du tout envie, qui ont eu un engagement dans la lutte peut-être trop fort, qui ne voulaient pas du tout se retrouver dans un livre. D'autres ont fait un autre choix. Dieu merci. Et de ce fait, j'ai récolté ces témoignages petit à petit.
Pourquoi la nécessité de publier un livre? Ça vous semblait être la façon où vous vous sentiriez le mieux pour...
Oui, parce qu'en fait, j'ai vu mon rôle simplement en tant que objet ou instrument, si on veut, de porte-parole de ces gens. De ces exilés. C'est ça qui était important, de leur donner le micro, de leur donner une voix pour que le monde les entende, enfin le plus possible de gens, puissent entendre leur histoire. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire ces témoignages d'une façon très simple et très terre à terre, parce que je ne voulais pas faire d'analyse politique. Plein de gens le font bien mieux que moi. Je n'avais pas non plus envie de faire un roman, parce qu'il y a des grands romanciers sud-africains. Mais je voulais que ce soit quelque chose de très terre à terre, pour que les gens qui lisent ça se sentent directement concernés. En parlant de petites choses, comment on fait ses courses en Afrique du Sud, en Suisse, c'est pas du tout comme ça. Je veux dire, on a plein de choses qu'on considère comme normales, comme un dû finalement. Et dans d'autres latitudes, c'est des sacrés privilèges. Donc j'aimerais que les gens voient aussi un peu ça comme un miroir et se rendent compte de ce qu'on a finalement ici aussi.
Est-ce que l'écriture était un moyen que vous aviez déjà utilisé avant ou que vous avez justement décidé d'explorer pour cet objectif-là?
Écoutez, très peu. J'avais écrit quelques articles sur des sujets qui me faisaient plaisir, mais disons que j'ai pas du tout une vocation d'écrivain ou dans ce sens-là.
Et Marie-Noëlle Anderson, pourquoi avoir voulu donner la parole aux exilés? Parce que c'est un choix particulier. Vous auriez pu, puisque vous pouvez, vous, aller en Afrique du Sud, donc vous auriez pu parler avec des gens vivants en Afrique du Sud. Et vous avez choisi de donner la parole à ceux qui ont dû ou qui, pour diverses raisons, se trouvent hors d'Afrique du Sud aujourd'hui. Pourquoi
c'était? Oui, tout à fait. Bon, toute la thématique de l'exilé est une chose qui m'était peut-être assez proche, parce que moi-même, je me suis retrouvée justement avec tout un bagage bagage que j'ai d'abord laissé de côté, mais qui était quand même là, même s'il était inconscient, donc aussi exilé quelque part à l'intérieur de moi. Et, aller en Afrique du Sud, les gens ne s'expriment pas tellement, ils ont peur, la plupart. Ce n'est pas aussi facile qu'on croit d'organiser tout ça. Il aurait fallu avoir un laps de temps bien déterminé, tout organisé à l'avance. Et je pensais que c'était intéressant justement d'avoir les témoignages des exilés qui racontent pourquoi est-ce qu'on part d'abord. Et ensuite, bon, l'exil en soi, parfois, c'est assez aventureux, rocambolesque. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que la vie en exil? Parce que là aussi... il faut bien dire que nous avons souvent une attitude assez paternaliste et on a l'air de dire que bon, maintenant ces gens, ils sont chez nous, donc tout va bien, tout est rose, il ne faut surtout pas qu'ils se plaignent. Alors là, ça me rentre, je deviens très fâchée parce que ce n'est pas du tout ça. Et bon, on a échappé au pire, on vit, c'est déjà quelque chose. Mais on a de tels traumatismes, il y a un tel bagage, disons, à alchimiser pour se retrouver bien. Quand on est exilé, et ça c'est... Bon, j'ai parlé des exilés sud-africains parce que ce sont mes racines, mais c'est valable pour tous les exilés du monde. Et je pensais que c'était important aussi de parler de cet aspect-là. Et mon souhait, ce serait que les gens lisent vraiment ça avec le cœur, en se disant qu'on a aussi beaucoup à apprendre d'autres cultures, d'autres façons de penser et de fonctionner.
Il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait commun à tous les exilés en ce moment, c'est que au moment où vous avez fait vos interviews, on peut peut-être le situer, c'est surtout pendant l'année 1989, c'est ça?
Oui.
Et 1990.
Donc... 89-90, oui, mm-hmm. C'est ça.
Il y avait vraiment de grands bouleversements qui se passaient en Afrique du Sud à ce moment-là. Et d'aller rencontrer des exilés à ce moment-là, c'était quand même un moment particulier.
Oui, c'est-à-dire que les bouleversements n'avaient pas vraiment encore eu lieu. On sentait que ça se préparait parce qu'il faut bien dire qu'il y a eu d'une part bon, toute la lutte de l'intérieur, ça c'est sûr. Mais il y a aussi eu toute la pression internationale. Il y a eu les sanctions. Et ce qui a fait bouger les choses beaucoup, ça a été les milieux économiques qui ont convoqué les représentants de l'ANC, qui à l'époque étaient encore bannis, interdits, tout ce qu'on veut, à l'extérieur de l'Afrique du Sud, pour vraiment avoir des contacts sérieux avec eux, parce qu'ils se rendaient bien compte que ça n'allait plus être possible. Donc tous ces bouleversements, ils étaient en train de se préparer. Et c'était intéressant de parler avec les exilés aussi dans ce sens-là, parce qu'ils ont pu exprimer tous leurs espoirs, toute leur vision d'une Afrique du Sud de demain.
Et de leur éventuel retour.
Et de leur éventuel retour. Ça, pour eux, c'est absolument vital. C'est un peu, on pourrait dire, le carburant qui les a poussés à survivre, à assumer toutes ces choses difficiles de l'exil, de tous les jours, de l'adaptation dans des milieux différents, etc. C'est vraiment un peu la carotte qui dit, bon, un jour, on pourra rentrer.
Et certains en rêvent même après 17 ans, 20 ans d'exil. Donc, il y a même des très longues périodes en exil et toujours, c'est l'obsession.
Tout à fait. Et donc, avec cette obsession, il faut aussi dire qu'il y a toute une possibilité parfois de déformer la réalité. Donc, on garde les bons souvenirs, on idéalise. Et parfois, quand le moment arrive, après toutes ces années d'espoir, d'attente, en fait, du jour J, quand on se trouve là tout d'un coup devant la réalité et la possibilité, c'est l'angoisse qui arrive. Parce que, bon, il va falloir voir les choses vraiment en face telles qu'elles sont.
Alors, nous reviendrons sur cette question importante, parce que je crois que c'est vraiment un point très, très important de la vie des exilés, cette idée du retour et ce souvenir qui se transforme, s'idéalise au fur et à mesure des années d'éloignement. Mais il y a une dernière chose dont il faut absolument que nous parlions, Marie-Noëlle Andersen, c'est la préface de votre livre. Et ça, nos auditrices et nos auditeurs doivent le savoir tout de suite, ce qui peut-être aussi les stimulera à découvrir le
absolument.
Livre. C'est que votre livre est préfacé par André Brink.
Tout à fait.
Alors, comment cette rencontre magnifique pour avoir la préface d'André Brink?
Oui, ça a été une longue histoire, un long parcours. Je cherchais quelqu'un pour me faire une préface. Enfin, faire une préface à ses témoignages. J'avais contacté Nelson Mandela aussi, justement, que j'avais rencontré. Lui était en principe d'accord, mais ensuite, il a eu des problèmes de santé. Il a eu un emploi du temps surchargé, donc ça n'a pas marché. Il y a eu d'autres gens, des femmes que j'ai contactées. Et bon, j'étais là, plus très bien savoir que faire. Et pour finir, j'ai pris contact avec Jean-Philippe Rapp, donc, qui est une des personnes importantes pour les dialogues Nord-Sud. Je sais que c'est un sujet qui le touche aussi beaucoup. Et il m'a dit, mais j'ai encore mieux, pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas à André Brink, qui est un bon ami et qui va arriver en Suisse prochainement. Donc André Brink est venu pour le Salon du Livre. Je l'ai attrapé, je lui ai donné une copie du manuscrit. Il m'a dit, oui, en principe, je suis d'accord, mais il faut que je le lise. Ce qui était tout à fait normal. Et, un beau jour, je n'avais absolument pas de nouvelles, ni oui ni non, un beau jour, je reçois par express la préface qui est d'une force et d'une puissance absolument magnifique. Et c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai reçu dans le cadre de ce livre. C'était magnifique.
Vous lui aviez précisé ce que vous attendiez un peu de lui dans cette préface ou il a eu carte blanche totale ?
C'est-à-dire, oui, je lui ai dit qu'évidemment, comme c'est des témoignages qui étaient vieux, entre guillemets, mais qu'il était important de absolument parler de l'Afrique du Sud aujourd'hui, donc de l'actualité en Afrique du Sud, surtout après, maintenant ça va faire 3 ans quand même que Nelson Mandela est sorti de prison. Il n'a toujours pas le droit de vote, ça il faut bien le dire. Ça, on ne s'en rend pas compte. Ça fait 3 ans que tous les mouvements ont été réhabilités, si on veut. Et c'est absolument important de se rendre compte que rien n'a changé, ou pas mal de choses ont changé en mal. Et c'était important de le dire, parce que beaucoup de personnes se disent « Bon, maintenant, l'Afrique du Sud, on négocie, tout se passe très bien. » C'est une erreur.
Oui, ça, je crois que nous aurons aussi l'occasion de le découvrir avec vous, Marie-Noëlle Anderson, lorsque nous évoquerons, peut-être en troisième partie de notre entretien, ce que tente toujours de faire les personnes qui sont encore exilées et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient exilés, parce que c'est ce qui aussi les fait vivre à l'extérieur, c'est de se dire qu'ils participent toujours à la lutte pour transformer les choses dans leur pays. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud et quelle chance il y a aussi que les choses, enfin, deviennent meilleures pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui veulent vivre ensemble en Afrique du Sud, qu'ils soient noirs ou blancs. Alors, nous avons choisi d'entente entre Marie-Noëlle Anderson et moi-même de vous lire une partie de la préface d'André Brink, histoire de situer justement tout de suite ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Et c'est bien sûr le point de vue d'André Brink, mais je crois que c'est important de dire qu'en tout cas, nous nous identifions à cette analyse
Absolument.
Des choses. Et que c'est important que ce soit mis en exergue comme ça de notre discussion, parce que comme ça, on sait tout de suite à quoi se rapportent les propos des gens, même s'il y a justement un petit décalage temporel parfois entre les témoignages des exilés et puis ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vous lis un petit extrait qui est introduit justement par une situation qui est très claire où André Brink dit « L'euphorie du début est passée, l'étape que franchit l'Afrique du Sud en ce moment est difficile et sombre. La preuve lorsque, un moment juste après la libération de Nelson Mandela, un journaliste demande à une vieille femme qu'il croise dans la rue « Est-ce que vous êtes heureuse que Nelson Mandela soit enfin libre ?» Et elle lui répond tout simplement « Je continue à avoir de la peine à vendre mes fruits et mes légumes. » Je cite maintenant très précisément André Brink. En effet, le flot d'exilés rentrant par milliers en Afrique du Sud trouvera un pays encore aux proies aux flammes. Si en apparence la nature de la violence a changé, elle continue par sa présence même à déterminer la qualité de vie au pays de l'apartheid. Si les lois qui maintenaient l'apartheid en place ont pour la plupart été abolies, la mentalité de l'apartheid persiste. Pis encore, les pratiques de l'apartheid continuent. Nelson Mandela a bien quitté sa prison, mais il n'a toujours pas le droit de vote. À certains égards, la situation est peut-être même pire qu'avant. De Klerk dirige l'un des régimes les plus corrompus du monde. Alors qu'il se balade sur la planète pour charmer les cœurs crédules avec ses sourires, la famine, les privations, la misère, l'injustice, l'exploitation et l'oppression vont bon train. D'une manière effrontée et flagrante, les forces gouvernementales et les agents provocateurs font tout pour que l'escalade de la violence parmi les Noirs continue. Puisque c'est le moyen le plus sûr pour que le régime garde le pouvoir. Confronté à la preuve indéniable des implications de son régime dans des cas de détournement de fonds, vol, pillage, viol et meurtre, de Klerk nomme des commissions d'enquête, tout en s'assurant que leur terme de référence soit tel que les criminels ne comparaissent pas en justice. Lorsqu'un meurtrier sanctionné par le gouvernement est arrêté, le régime de Klerk fait en sorte qu'il lui soit pardonné et qu'il recouvre la liberté. De Clercq essaye simplement de séduire le monde avec des promesses de réforme, une réforme à laquelle lui-même, au plus profond de son cœur, continue à résister. Sa propre épouse, parlant des non-blancs, les a qualifiés d'êtres à peine meilleurs que des animaux. Un référendum blanc qui se prononça de façon écrasante, même si ce fut pour des raisons suspectes, en faveur d'une réforme, n'a fait que renforcer l'action de De Clercq. Résister à une vraie réforme, c'est-à-dire au transfert du pouvoir à la majorité si longtemps opprimée, et s'assurer que le plus grand nombre possible de blancs occupant des postes clés continuent à s'enrichir en exploitant le pays par la tactique de la terre brûlée, tant sur un plan économique que moral, alors qu'il n'ait fait aucune tentative pour examiner les faits réels masqués par ces affirmations. Voilà pour le respect des éléments mêmes de la démocratie. De la part d'un régime gouverné par un homme qui a si bien réussi à berner le monde, parce qu'une partie prépondérante de ce monde, au plus profond de son cœur, continue à soutenir les croyances qui ont servi de base à l'apartheid et préfère faire de bonnes affaires avec des dirigeants blancs plutôt que des noirs. Le retour des exilés peut en effet se transformer, selon le titre d'un poème de Breitenbach, en exil de l'exil. Marie-Noël, ce que nous entendons en ce moment, c'est le groupe Fanacalo et c'est un groupe suisse. Comment ça se fait que vous nous faites écouter des musiciens suisses ?
Tout à fait, c'est d'ailleurs étonnant parce qu'ils ont choisi le nom de Fanacalo, qui est un espèce d'espéranto qui s'utilise dans les mines en Afrique du Sud, qui est un mélange de différents langages tribaux. Et ce groupe de musiciens suisses a, par je ne sais pas quel miracle, des affinités avec l'Afrique du Sud énormes. D'ailleurs, dans le son de leur musique, c'est tout à fait le fameux Cape Town Sound. Et ce morceau que nous entendons est dédié à Chris McGregor, qui est un tout grand musicien sud-africain qui a vécu longtemps en exil et qui malheureusement est décédé en exil et n'a pas connu cette joie du retour.
Fanacalo. Vous êtes dans Remue-Ménage, Radio Zone 93.8, et nous écoutons encore Fanacalo.